Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. La RDC et l'Ouganda s'engagent à renforcer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Ce sont les retombées des travaux de la 9e session de la commission permanente mixte Ouganda-RDC tenue du 8 au 10 mai 2026 à Kampala. La MONUSCO condamne avec fermeté une nouvelle vague d'attaques meurtrières contre des civils dans l'est de la RDC. La mission onusienne estime que ces attaques illustrent une fois de plus la menace persistante que le conflit fait peser sur les populations civiles dans l'est du pays. Les jeunes évoluant dans une structure dénommée Caravane panafricaine pour la paix en RDC séjournent à Kananga depuis jeudi. Ils apportent un message de paix et d'unité nationale partout où ils vont à travers le pays. Pour en parler, nous recevons John Anipenda, l'un des membres de cette caravane. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. La République démocratique du Congo et l'Ouganda s'engagent à renforcer davantage la coopération bilatérale, la sécurité le long de leurs frontières communes et les échanges économiques et commerciaux avec la construction des postes frontaliers à arrêt unique et les marchés transfrontaliers modernes à Kasindi, Bunagana et Mahagi. Retombée des travaux de la 9e session de la commission permanente mixte Ouganda-RDC tenue du 8 au 10 mai 2026 à Kampala et sous les thèmes « Accélérer la prospérité partagée, commerce, infrastructure, la sécurité pour la stabilité régionale renforcée et une transformation socio-économique ». Les détails avec Feli Louindadio.
La réunion des ministres a pris acte du rapport des experts certifiés par les secrétaires généraux des administrations pour renforcer cette coopération dans différents secteurs et ce lundi 11 mai 2026 devant le président de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi et son homologue ougandais Yoweri Kaguta Museveni, six mémorandums d'entente seront signés au State House, une coopération qualifiée de stratégique par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité décentralisée et affaires coutumières, Jacques Meshabani.
Les discussions se sont bien passées. Nos experts ont travaillé pendant plusieurs jours sur différents documents. Nous avons aujourd'hui six documents dans différentes thématiques qui vont faire l'objet de signatures et d'accords entre les deux États. Cela renforce notre coopération et je crois que tout cela est à l'avantage de nos deux présidents et de nos populations qui ont des intérêts communs extrêmement larges de survie pour nos deux nations et pour nos deux populations.
Côté ougandais, son ministre des Affaires étrangères, Odongo Jeje Aboubakar, a insisté sur la matérialisation de ce partenariat, car les experts ont 3 mois pour faire accélérer la feuille de route mise en place.
Ici au pays, les coupures récurrentes d'électricité et les déficits de production énergétique en RDC se sont invités à la plénière de ce vendredi à l'Assemblée nationale à travers une question d'actualité du député Jethro Muyombi adressée à la Société nationale d'électricité. Invité à s'expliquer devant les députés, le directeur général de la SNEL, Tidi Luamba, a attribué les délestages observés à Kinshasa, dans le Haut-Katanga et dans plusieurs provinces à l'augmentation de la demande en électricité, notamment dans les secteurs miniers, mais aussi aux limites du cadre légal encadrant les investissements privés dans la production énergétique. Le DG de la SNEL estime que certaines dispositions de la loi sur l'électricité ont freiné le développement de nouvelles centrales capables de réduire les déficits énergétiques du pays. On l'écoute au micro de Grace Hamzati.
On libéralise le secteur d'électricité en 2014. 17 ans après avoir libéralisé le secteur minier, le gap se crée. Nous avons 5000 MW de demande en grande consommation en secteur minier qui crée ce gap de presque 2500 MW de besoins supplémentaires, qui inverse déjà la tendance à l'exportation. Notre parc productif n'arrive pas à le faire. Mais malheureusement, la révision même de la loi sur l'électricité n'apporte pas de grandes solutions. Nous avons mis nous-mêmes dans les dispositions légales tout octroi d'une concession de production d'électricité liés à la loi sur les marchés publics. Ce qui fait que pour tout investisseur privé qui veut investir pour avoir une concession et développer une centrale hydroélectrique, devait respecter les règles des marchés publics. Les règles des marchés publics invitent à quoi ? À la concurrence, à la publicité. Alors tous les investisseurs qui pouvaient accompagner dans le privé se retrouvaient face à un problème. L'État n'a pas mis suffisamment de moyens, ils investissent leurs propres fonds et en investissant leurs propres fonds, quand ils avaient besoin d'avoir de concessions de production, ils devaient maintenant respecter la règle sur les marchés publics. Mais ils ont investi de millions en amont. Ce qui a fait que la loi sur l'électricité n'a pas permis non plus à pouvoir développer des centrales.
Dans la province du Kasaï, plus précisément à Chikapa, les travaux de modernisation de son aéroport ont été retirés à l'entreprise Horizon Corporation pour insuffisance des résultats. L'agence congolaise des grands travaux ACGT et de l'entreprise chinoise Cisco SA ont pris cette décision samedi à l'issue d'une mission conjointe au Kasaï. Ces deux entreprises disent avoir un retard de près de 11 mois dans l'exécution des travaux de cet ouvrage. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
Selon les conclusions de cette mission mixte, le projet de modernisation de l'aéroport de Chikapa sera réaffecté dans les prochains jours à un autre sous-traitant de Cisco SA, entreprise principale chargée de l'exécution des travaux dans le cadre du programme sino-congolais. Cette délégation, venue de Kinshasa, a tenu une séance de travail à l'aéroport national de Chikapa, au cours de laquelle elle a procédé à une inspection technique des travaux de modernisation initialement confiée à la société Horizon Corporation. Les experts ont également évalué la situation préoccupante de l'érosion qui menaçait de couper la piste en deux. Le chef de cette délégation a exprimé les sérieuses préoccupations liées au faible niveau d'avancement des travaux ainsi qu'au non-respect des normes techniques prévues dans les cahiers des charges. Il a précisé que cette démarche s'inscrit dans le cadre du suivi et d'évaluation des projets d'infrastructure en cours dans la province du Kasaï, conformément à la vision du gouvernement central qui vise la modernisation des infrastructures de transport à travers toute la République.
En Mbujimayi, dans la province du Kasaï oriental, les opérations de contrôle des documents de bord se multiplient sur les principaux axes routiers. Parmi les pièces exigées figurent les contrôles techniques, un document délivré par la division provinciale des transports et communications. Mais sur le terrain, les voies d'obtention ne sont pas toujours les mêmes. Rendons-nous au centre des contrôles techniques automobiles Prof Cham, une structure du diocèse de Mbujimayi. C'est un reportage signé Esther Ndalafina.
Lorsqu'un véhicule arrive au centre de contrôle technique automobile Prof Cham, la procédure est bien connue. Abbé Jean Bachal, directeur adjoint du centre, détaille les deux opérations auxquelles tout engin est soumis avant l'obtention du précieux document.
La première des choses, faire le check-up de l'engin. Et si le contrôle n'est pas valable, on ne vous donne pas de document. Par exemple, votre engin n'a pas de phare. Il y a une faible système de freinage. On vous envoie au garage. Vous revenez, on fait encore le contrôle. Et là, on fait les PV de contrôle, on vous envoie au bureau de Transcom, au bureau de DGCAOR, vous payez la redevance de l'État.
Ces opérations sont payantes, rappelle-t-il, et les frais sont fixés selon la catégorie du véhicule. Pourtant, certains propriétaires préfèrent contourner ce passage obligatoire qu'ils jugent trop long et trop exigeant. Mais pour Eric Lembalemba, fils d'un propriétaire de véhicule trouvé sur place, respecter la procédure reste la meilleure garantie pour tous.
Personnellement, j'admire beaucoup travail, c'est pour la sécurité de tous. J'aime leur initiative.
Entre exigences administratives et impératifs de sécurité routière, le contrôle technique demeure un passage incontournable. Reste à savoir si tous les conducteurs acceptent de jouer les jeux pour des routes déjà bien plus sûres dans la ville. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, un grave accident de circulation s'est produit ce dimanche 10 mai sur la route de Matadi au niveau de l'arrêt Vodacom quartier sans fil dans la commune de Mongafula. Une moto s'est retrouvée coincée entre un camion remorque transportant du ciment et un camion ben alors que le conducteur de la moto tentait de se frayer un passage entre les deux véhicules. Gloriane Lepeya était sur les lieux de l'accident. Voici son reportage.
Une autre moto a été également touchée. Le bilan est lourd. Deux personnes sont mortes sur le champ et plusieurs autres grièvement blessées. La police est arrivée sur le lieu peu après le drame pour rétablir la circulation fortement perturbée par cet accident. Ses témoins reviennent sur les circonstances de cet accident.
La moto a dévié entre deux véhicules et a été coincée par un ben, finissant sous la remorque. Les motards ont perdu une jambe, deux personnes sont mortes et autres blessées ont été conduites à l'hôpital.
Après le choc, plusieurs personnes se sont mobilisées pour secourir les victimes.
Où l'accident vient de se faire, c'est tout justement, c'est à côté de Vodacom. Il y a eu un accident, d'autres personnes ils étaient évacuées dans des hôpitaux qui sont aux environs.
Un tram de plus sur le route de Kinshasa qui appelle les usagers à plus de prudence.
Je le disais en titre, la MONUSCO condamne avec fermeté une nouvelle vague d'attaques meurtrières contre des civils dans l'est de la RDC, notamment en Ituri, au nord Kivu et au sud Kivu. Dans un communiqué publié le week-end, la mission des Nations Unies en RDC indique que des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours dans plusieurs territoires, dans un contexte sécuritaire toujours préoccupant. Elle estime que ces attaques illustrent une fois de plus la menace persistante que le conflit fait peser sur les populations civiles dans l'est du pays. Les détails avec Martial Papimukeba.
Dans son communiqué, la MONUSCO indique que des dizaines de civils ont été tués ces derniers jours dans des attaques survenues à Ituri, dans les territoires d'Irumu, Djougou et Mambasa, ainsi qu'aux environs d'Owicha au nord Kivu et dans la chefferie de Bafuliru au sud Kivu. La mission de l'ONU estime que ces incidents confirment la menace persistante du conflit sur les populations civiles dans l'est de la RDC, une région régulièrement touchée par l'insécurité. Elle dit également suivre avec préoccupation des informations faisant état des frappes aériennes et des bombardements survenus le 8 mai 2026 à Kilolirwe et Mushaki, au nord Kivu, ayant causé des victimes civiles. La MONUSCO rappelle que toutes les parties au conflit doivent protéger les civils et respecter les droits internationaux humanitaires ainsi que les droits humains. Elle appelle en fait à la cessation immédiate des attaques contre les civils et insiste sur la nécessité de traduire en justice les auteurs des violations.
Dans le même registre, au nord Kivu, la société civile du territoire de Lubero appelle le gouvernement au cantonnement des groupes Wazalendo, dits volontaires pour la défense de la patrie, VDP, pour leur formation au règlement militaire et au respect du droit international humanitaire. Cet appel intervient après la condamnation mercredi à la peine capitale d'un membre du groupe Wazalendo Far West, reconnu coupable par les tribunaux militaires des garnisons de Butembo, du meurtre d'un motard et du viol suivi du meurtre de sa cliente la semaine dernière à Kimbolo. La société civile qui alerte sur les dangers liés à la détention d'armes par des personnes non formées demande également la suppression du mouvement Far West. Son président Moïndo Tafuteni s'exprime au téléphone de Martial Papimukeba.
La formation de la société civile Force Vive du territoire de Lubero, elle demeure ferme. La détention des armes par des personnes sans aucune formation, ni règlement militaire, moins encore sa notion des droits de l'homme, est une foyer de sécurité au sein de la population. Elle rappelle sa position au gouvernement de rassembler tous les Wazalendo dans un centre en vue d'une formation et règlement militaire et des capacitations sur les droits de l'homme. De plus, quant au groupe Phare W, sur lequel la justice s'est prononcée pour sa suspension en territoire de Lubero, la société civile demande la suppression de ces mouvements. Le programme de PDDRCS est une piste pour accueillir ceux qui voudront réintégrer la vie civile.
L'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section du Kasaï, a organisé samedi la célébration de la journée mondiale de la liberté de la presse. Commémorée chaque 3 mai, cette célébration a été reportée pour des raisons organisationnelles. Au cours de cette activité, le président provincial de l'UNPC a invité les journalistes au respect du code d'éthique et des déontologies du métier afin de contribuer au bien-être de la communauté. Les points avec André Katinde Ngalamoulomé.
Le journalisme au service de l'information et de la cohésion sociale, tel est le thème provincial retenu cette année pour la célébration de la Journée mondiale de la liberté de la presse dans la province du Kasaï. Le gouverneur des provinces ainsi que plusieurs autres autorités se sont joints aux journalistes à l'occasion de cette cérémonie. Dans son allocution, Marc-Laurent Chimanga, président provincial de l'UNPC section du Kasaï, a invité les journalistes au respect des lois qui régissent la presse et à travailler pour la paix.
L'Union nationale de la presse du Congo en province du Kasaï lance un double appel à ses membres. Demeurer au service de l'information saine, Celle qui est collectée, traitée et diffusée dans le respect strict des normes éthiques et déontologiques et promouvoir un environnement paisible pour toutes les populations du Kassai.
Ce message est un appel à la prise de conscience des hommes et femmes de médias du Kassai, une province post-conflit où la guerre des Kamuina-Nsapu a causé d'énormes dégâts matériels ainsi que de pertes en vies humaines entre 2016 et 2018. Kananga, André Katendengala Moulumé, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Guerre au Moyen-Orient, Narges Mohammadi, lauréate iranien du prix Nobel de la paix, actuellement emprisonné, a été transféré dans un hôpital de Téhéran et a obtenu un sursis à l'exécution de sa peine moyennant une caution élevée, a annoncé dimanche 10 mai une fondation gérée par sa famille.
L'invité.
Notre invité est John Anipenda, l'un des membres de la caravane panafricaine pour la paix en RDC. En séjour à Kananga, il parle du message de paix que le jeune véhicule à travers cette caravane panafricaine. John Anipenda s'entretient avec André Katende Ngalamulume.
Monsieur John Anipenda, bonjour.
Bonjour messieurs les journalistes.
Vous êtes en séjour à Kananga. Qu'est-ce qui motive votre présence ici?
Oui, nous sommes ici au nombre de oui, parce que nous avons pensé qu'il est temps que nous puissions quitter notre silence par rapport à ce que nous sommes en train de traverser dans notre pays. Vous le savez très bien que c'est plus de 30 ans que notre pays est en train de traverser des moments difficiles, des moments de guerre. Et en tant que des citoyens, nous nous sommes dit on ne doit pas rester indifférent face à ces drames ou à ces crimes que nous sommes en train de subir. Et c'est comme ça que nous avons initié une action ou cette caravane panafricaine pour continuer à hausser la voix et dire aux Congolais qu'il est temps de quitter notre silence. On doit utiliser la parole pour dénoncer. Nous avons commencé il y a déjà aujourd'hui 45 jours, depuis le 24 mars, que nous avons commencé cette marche qui a débuté depuis le Congo central, c'est juste à l'embouchure du fleuve Congo. Et nous sommes en train de passer ville par ville. Nous avons commencé cette marche par Matadi, Boma, Sekebanza. Et puis après, nous avons pris Banzangungu, Kinshasa, Kwango. Nous avons aussi passé par Bandunduville, Maindombe. Et aujourd'hui, nous sommes ici à Kananga. Notre caravane doit terminer jusqu'à Kalemie.
Dites-nous concrètement ce que vous poursuivez en organisant cette caravane.
Notre objectif est clair. Nous voulons dire non, non au silence. Plus de 30 ans que nos mamans sont en train d'être tuées. Aujourd'hui, on compte plus de millions de Congolais qui sont dans des camps de déplacés. Pour aussi dire à toutes ces personnes qui utilisent toujours de la violence pour tuer, pour revendiquer. On ne peut pas à tout moment venir tuer d'autres citoyens en disant que nous voulons vous protéger. Tu ne peux pas protéger quelqu'un que tu as déjà tué. Et nous, nous venons dire à ces Congolais qui continuent à être complices à nos ennemis ou à utiliser la violence qu'il y a beaucoup de moyens que nous pouvons utiliser pour changer les choses. Des actions citoyennes que nous pouvons mettre en place pour avoir la paix chez nous au Congo et continuer à hausser la voix pour la paix. Nous continuons à dire aux Congolais qu'il est temps que nous puissions être unis. Par exemple, nous avons entendu même dans des chansons, que ce soit dans des discours de politiciens ou des hommes même de la société civile, où nous disons toujours que la guerre à l'Est, où ce genre de concept risquerait de nous diviser. Il est temps de bannir ce genre de communication, ce genre de concept, et dire directement que lorsqu'on tue quelqu'un à Maindombe, lorsqu'on tue quelqu'un au Kassai, on tue quelqu'un à Goma, c'est un Congolais qui est tué et pas un Congolais de l'Est ou qu'un Congolais de Maindombe.
Comment allez-vous procéder?
Nous avons des moments d'échange avec des citoyens. Dans certaines villes où nous avons organisé des cafés citoyens, donc des moments de réflexion, d'échange. Mais il y a aussi des villes où nous avons utilisé des stratégies de ce que nous appelons les témoins de ma patrie. Ça veut dire on rencontre des citoyens, on échange directement avec eux. Mais aussi, nous continuons à utiliser aussi le système de donner la parole aux citoyens parce que nous tous, nous sommes de victimes de ce qui se passe chez nous au Congo. Et donc, nous n'avons pas seulement quelque chose à dire, mais nous avons aussi les oreilles pour écouter d'autres citoyens qui ont un message à passer. Et nous espérons que ensemble nous allons construire ce que nous appelons un même narratif, une même histoire. Nous voulons que cette action puisse être une action populaire. c'est seulement 64 jours de notre marche. Mais après ces 64 jours, nous voulons que ça puisse continuer.
Monsieur Johnny Penda, nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste.
C'était notre invité Johnny Penda qui s'entraînait avec André Katendinga Lamouroumé. Voilà qui met fin à cette édition du journal Parler du Matin, coordonnée et supervisée par Jude Mystère Bilandan Koumar et mise en onde par Pierre Diassinois. Ce journal est à réécouter sur notre site internet www.radiocapi.net.